Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tim. Dans la vie, je suis prof de maths. Voilà, personne n'est parfait, priez pour moi. Et je suis très content d'être ici ce soir. Déjà parce que je revois tous mes amis, même s'ils sont chinois. Et parce que je revois les autres qui vont devenir mes amis, je l'espère, même après cette blague raciste. Donc je suis très content d'être ici pour cette semaine d'évangélisation à Saint-Maur. Et moi, je viens de l'église de Montreuil, de la ville de Montreuil. Donc à Montreuil, il y a beaucoup de musulmans. Il y a beaucoup de nationalités différentes. Et rencontrer un catholique à Montreuil, c'est rare. Mais ici, arrivé à Saint-Maur, il y a peu de musulmans, il y a beaucoup de catholiques. Et je suis vraiment donc heureux de pouvoir vous partager quelques petites choses sur qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre nos amis catholiques, pour leur parler de l'évangile. Comment est-ce qu'on peut faire? On est dans une ville, on est entouré de gens qui ne connaissent pas l'évangile. Beaucoup sont de tradition catholique ou d'arrière-plan catholique. Il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire. Et moi, j'aime beaucoup les catholiques. J'ai l'occasion d'emmener plusieurs au Seigneur et de faire des études avec eux. J'aimerais, voilà, juste vous partager quelques petites choses ce soir. Alors déjà, désolé d'avance parce qu'en fait, je suis malade. Ça s'entend pas trop. C'est pour ça que j'ai un micro. Mais avec ma voix, là, cassée, ça va être un peu dur. Et j'aimerais que ce soir, ce soit un petit peu dynamique, un peu participatif. Si je vais parler pendant une heure, vous allez faire comme mes élèves, vous allez vous endormir. Surtout Clément, là, au fond, il fait le cancre, là, près du radiateur. Donc, n'hésitez pas, s'il y a une question, s'il y a une interrogation, s'il y a une remarque, levez la main. S'il y a une bêtise, dites-la simplement à Clément, pas à moi, ça ira. Et ce soir, on va essayer, si ça marche, qu'est-ce pas qui se passe? Ok, il n'y a pas de signal. Quand le signal sera revenu, ce soir, on va parler des catholiques. Bon, on va faire ça. Alors, le plan qu'on va suivre ce soir, on va avoir trois parties, si elles s'affichent. Bah, même si elle s'affiche pas, on aura quand même trois parties. On va avoir trois parties ce soir. On va dans un premier temps parler rapidement de théorie. Qu'est-ce que croient nos amis catholiques? Pourquoi? Mais on va pas trop s'étendre là-dessus. Dans un deuxième temps, on verra, ok, même si je sais ce qu'ils pensent, comment est-ce que je peux aller vers eux? Comment est-ce que je peux leur parler de Dieu? Et dans un dernier temps, eh bien, on va passer à la pratique. Et je deviendrai subitement catholique tout d'un coup, ainsi que Nathanaël ici présent, et vous allez devoir nous évangéliser. Attention, il est dur à convaincre, lui. Ok, c'est clair pour tout le monde, pour les trois parties? Tu peux me remettre le PowerPoint, s'il te plaît? D'accord, ça marche toujours pas. Ah mais si, ça marche en fait. Ok, donc les trois parties s'affichent, avec la souris en plein milieu, c'est très joli, n'est-ce pas? Donc une partie théorique, une partie pratique, et vraiment une mise en pratique, on pourra prendre le temps de pratiquer ce qu'on a entendu aujourd'hui. Ok? Alors, si on a le temps, il y aura un temps de questions, mais j'ai l'horloge devant moi en grand, donc voilà, j'ai un signe très clair qu'il ne faut pas que je sois trop long. Dans un premier temps, quelques dogmes importants des catholiques. Tout d'abord, oh purée, j'étais fatigué quand j'ai fait le PowerPoint. Alors, s'il y a une faute d'orthographe, c'est la faute de Dimitri Charles. D'accord? Il prend la photo. Alors, un tout petit peu d'histoire, et vous vérifierez mes fautes parce que j'étais fatigué quand je l'ai fait. Un tout petit peu d'histoire, qu'est-ce qui s'est passé en 312? Pas tous à la fois, s'il vous plaît. En 312. Allez, vous savez, Constantin, qu'est-ce qui s'est passé avec Constantin?
Constantin se convertit au christianisme.
Très bien. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais, toi? Fais F5, s'il te plaît. Merci. Ah, il a corrigé ma faute. Parce que l'empereur devient chrétien, une grande majorité de personnes se convertissent alors au christianisme. Pour beaucoup, c'est politique, c'est intéresser, c'est suivre le mouvement, c'est faire comme tout le monde, c'est faire comme l'empereur, c'est se faire bien voir. Quand on est un Romain, on a le culte de l'empereur, on a le culte des ancêtres, on a beaucoup de dieux dans notre arrière-plan, et le fait de croire en ces choses-là, c'est même pas quelque chose de religieux pour un Romain, ça fait partie du civisme. Le fait de respecter l'empereur, de croire à tous ces dieux-là, c'est quelque chose de civil. Donc quand on leur parle de « oui, il y a un Dieu unique qui est mort sur une croix », eux ils disent « ah ok, pourquoi pas, je vais rajouter ça à ce que je crois déjà ». Ça s'appelle le syncrétisme. rajouter une croyance supplémentaire à ce qu'ils croyaient déjà. Donc on a beaucoup de personnes qui deviennent chrétiens simplement par intérêt, pour se faire bien voir. Donc il faut comprendre que 312, c'était il y a longtemps, il y a presque 2000 ans, année de naissance de Clément. On n'est pas si vieux que ça. 312, c'était il y a presque 2000 ans. Pendant près de 2000 ans, vous avez eu une grande église qui a eu des dogmes qui ont changé, évolué, qui étaient en mutation pendant près de 2000 ans. Donc quelque chose qu'on peut dire, c'est que il y a des changements dans l'église catholique, il y a des arrière-plans, il y a quelque chose qui s'étale sur presque des millénaires. Donc quand nous on arrive et qu'on parle de la parole de Dieu, eux, ils ont déjà en tête beaucoup de choses sur ce qui s'est passé dans leur passé. Et il y a eu beaucoup de changements dans l'église catholique. Donc on a, nous, des fois, des a priori. On pense que les catholiques croient ceci ou qu'ils croient cela. Et lorsqu'on parle avec eux, on se rend compte que c'est pas du tout vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de changements au sein de l'église catholique. Dès 312, il y a une église qui s'est formée et qui a énormément, énormément, énormément changé. Vous avez presque autant de catholicisme que de catholiques. Beaucoup pensent très différemment, beaucoup évoluent dans leur façon de penser, et il est très difficile d'avoir un point de vue auquel tout le monde va se raccrocher. D'accord ? C'est un peu comme les milieux évangéliques, il y a de tout et de rien. Alors, quelques dogmes importants, je pense qu'il est important de commencer par le salut. Donc, si je vous demande, c'est quoi pour vous le salut ? Comment est-ce qu'on est sauvé ?
Qui a dit par les œuvres ?
Ok, est-ce que quelqu'un peut mettre un soufflet à Nathanaël, s'il vous plaît ? Dans l'amour. Voilà, c'est bien. Plus fort. Le salut. Allez, un peu de réaction. Vous savez, vous êtes sauvés si vous êtes là, normalement. Par la foi, c'est-à-dire ? La foi en qui ? En quoi ? En Christ. Qu'est-ce qu'il a fait, Christ ? Crucifié et ressuscité. Ouais, on va dire que ça va pas... C'est un petit peu succinct, mais on va dire que ça passe. Oui, c'est ça. Christ est mort, ressuscité, et nous offre le pardon des péchés et la vie éternelle. Ça, c'est le salut, au sens où on l'entend. Lorsqu'on parle avec des amis catholiques, il y a beaucoup de points différents déjà dès le salut. Premièrement, il faut comprendre que, pour les quelques points qu'on va voir ce soir, j'ai regardé le catéchisme de l'Église catholique. Dans le catéchisme, il y a 37 thèses principales. Et j'aurais pu aussi le faire, mais j'ai eu la flemme. On aurait pu aussi parler des 16 textes de Vatican II, qui sont écrits en latin, et qui ont été écrits sur une période de plus de 3 ans. Ils sont réunis dans les années 60 pour écrire ces 16 textes-là. Tout ça, ces 16 textes et le catéchisme, ça résume tout ce que l'Église catholique est censée croire. Ok ? Et lorsqu'on parle du salut, regardez ce qui s'affiche. Un salut disponible à travers l'Église catholique. Le décret sur l'œcuménisme, qu'est-ce qu'il nous révèle ? C'est en effet par la seule Église catholique du Christ, laquelle est moyen général de salut, que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens de salut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Techniquement, quand on lit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Qu'on est sauvé que dans... Ok ? Vous êtes d'accord ? Qui n'est pas d'accord ? Quand on lit ça, on a l'impression que, mais attends, on peut être sauvé que dans l'Église catholique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regardez ce que dit la suite de l'article. Tiens, est-ce que quelqu'un pourrait me le lire? Dimitri Charles, parce que t'es devant. Vas-y.
Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut. Or, il nous devient présent en son corps qui est l'Église. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait pas être sauvé. Article 846, page 227.
Est-ce que quelqu'un peut l'applaudir pour la lecture, s'il vous plaît ? Merci. Quand on voit ces choses-là, on a l'impression que, théoriquement parlant, le salut, ce n'est que dans l'Église catholique, qu'à travers l'Église catholique. Ok? Mais, dans la pratique, est-ce que c'est ce que vont vous dire vos amis catholiques? Est-ce que c'est ce qu'ils croient? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui vous disent « Tu n'es pas catholique, donc tu n'es pas sauvé ?» Vous avez le droit de répondre, c'est une question. Non. Qu'est-ce qu'ils croient dans la pratique? Oui, mais à propos de nous, comment est-ce qu'on... Est-ce que nous, on est sauvés pour eux? Souvent, oui. En gros, leur vision, c'est comme quand je vais à l'église de Saint-Maur depuis la gare, là-bas, qui est à Perpète. Soit je peux y aller à pied, soit je peux attendre le bus pour y aller, ou soit je peux monter dans la voiture de Clément pour y aller directement. Il y a plusieurs chemins qui mènent à l'église de Saint-Maur, mais il y en a un qui est meilleur, et qui est plus rapide, et qui est plus facile, et qui est mieux fait, c'est celui de Clément, la voiture de Clément. C'est la même chose pour... Enfin, il n'est pas d'accord avec moi. C'est la même chose pour eux. Dans leur tête, dans leur manière de voir concrètement ce qu'ils croient, pour beaucoup, c'est « Oui, oui, toi aussi tu vas être sauvé, hein, tu lis la Bible, tu crois en Dieu, oui, oui, il n'y a pas de problème. Ton truc aussi, ça marche. » Mais l'Église catholique, c'est mieux. On est dans une forme où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il a raison. Ils sont très, très ouverts. Mais finalement, bon, bah voilà, il y a un petit peu tous les chemins qui mènent au salut. Faut être ouvert. Il y a des gens très très bien dans d'autres milieux aussi. Et finalement, ça nous donne une vision très pauvre du salut. Plutôt que de parler de ce que Christ a fait à la croix, plutôt que de dire qu'il n'y a qu'en Christ qu'on a une solution, c'est pas le fait d'aller à l'église qui nous sauve, c'est pas le fait d'être quelqu'un de très gentil ou de bien s'habiller qui nous sauve, la preuve. Mais qu'on a un salut parce qu'on a tout donné à Jésus-Christ qui lui-même nous a tout offert à la croix. Ça, ce n'est pas du tout, du tout clair dans l'Église catholique. On nous présente un salut qui est très pauvre, qui est très simple. Et ça, mes amis, c'est le grand enjeu, c'est le grand problème avec nos amis catholiques. Ils ont une vision assez pauvre du salut. J'ai raconté une petite histoire, je ne sais pas si je l'avais écrit à ce moment-là. Ah si, j'avais écrit à ce moment-là. J'étais à un forum des associations une fois. Et donc, je tenais le stand d'une église dans laquelle j'étais il y a plusieurs années. Et cette église faisait des réunions avec les catholiques. Et là, je croise une dame qui me dit « Ah mais oui, je connais bien votre église !» Parce que j'étais dans une réunion qui se font avec, entre catholiques et protestants. Alors moi, qui n'aimais pas ce genre de réunion, qui n'avais jamais mis les pieds, je disais « Ah, ben écoutez, super qu'on puisse parler de ça. » Et je commence à parler avec cette dame et je lui parle de l'évangile. Qu'est-ce qu'elle me répond ?« Mais monsieur, votre vision de l'évangile est choquante !» J'ai parlé de Christ mort sur la croix, seul moyen pour être sauvé. Elle disait, mais non, c'est choquant! Non, l'évangile, c'est l'amour, c'est l'acceptation des autres. C'est la joie. Cette dame me disait plein de choses très intéressantes. Et plein de choses qui ne sont pas entièrement fausses. On peut trouver de la joie et de l'amour en Christ, évidemment. Mais ce n'était pas l'évangile. Et le grand enjeu, c'est de pouvoir annoncer clairement, complètement, totalement, radicalement l'évangile de Christ. C'est là la grande différence. Et je dirais même, c'est même pas une différence qu'on a avec des catholiques, parfois même dans les milieux évangéliques, qui se disaient très très bien, vous avez des églises qui n'annoncent pas totalement, complètement et radicalement l'évangile. Et c'est là l'enjeu. Alors pour ceux qui commencent à s'endormir, vous en faites pas, on va passer à la partie pratique après. Alors, on a parlé du salut. L'Église catholique nous présente un salut qui est appauvri, un salut qui n'est pas celui des Écritures. Mais vous avez vu, on n'a pas encore ouvert la Bible. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me prendre un verset qui nous présente le salut dans lequel on croit? Le salut dans lequel on croit. Pour terminer sur cette question du salut. Juste un verset ou deux, oui? Romains 3, vas-y, 23. Vas-y. On ne dira rien pour cette sonnerie intempestive. Vous mettrez votre carnet sur le bureau à la fin de l'heure. Oh, excusez-moi, les formations professionnelles. Amen. Allez, un autre verset. Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et c'est le... Ce n'est point par les... Afin que personne ne se... C'est bien, on fait bien des textes à trous ensemble. Éphésiens 2, 8 et 9. Allez, un autre. David, tu rigoles, donne-moi un verset. Je cherche, cherchez, vous trouverez. Très bien, un autre verset. C'est quoi Jean 3, 36? Est déjà condamné. Amen. Ok, donc voilà des versets qui nous présentent vraiment l'évangile. Maintenant, un autre point, le poids de la tradition. Nos amis catholiques croient en la Bible, mais la grosse différence, c'est qu'ils vont croire en ce que leur dit la tradition qui se trouve dans l'Église catholique, les autorités de l'Église catholique. Une fois, je discutais avec des amis séminaristes. Alors, c'est quoi un séminariste ? C'est-à-dire un mec qui se prépare à devenir prêtre, d'accord ? Donc, il se tient comme Samuel Taille, voilà, très, très sérieux, toujours, très bien sur lui. Et j'ai rencontré un ami séminariste. Et je parlais, je lui disais, mais pourquoi est-ce que vous croyez comme ça en tant à la tradition ? Et il me disait, mais regarde, c'est simple. La parole de Dieu, on l'a eu à travers les apôtres, Pierre, Paul, etc. Oh merci, c'est trop gentil. Par contre, pose-le parce que j'ai plus de main. Merci. La parole de Dieu, on l'a eu à travers Pierre, à travers Paul, à travers les apôtres. Tout ce qu'ils ont écrit était parfait. Oui, oui, pas de problème. Donc eux étaient parfaits. Non. Donc tout ce qui nous provient d'eux à travers la tradition, bah c'est aussi parfait. Non. Voilà leur raisonnement. Parce que les apôtres ont donné un enseignement parfait dans la Bible, tout leur enseignement était parfait, donc tout ce que j'ai dans ma tradition, qui vient des apôtres évidemment, hein, c'est aussi parfait. Vous êtes d'accord avec ça ? Eh mais réveillez-vous, sérieux. Vous êtes d'accord avec ça ? Non. Ok ? Et en fait, on a vraiment quelque chose de très sérieux. On a une grosse différence. Parce que nous, on se fonde sur la parole de Dieu pour parler, mais mon interlocuteur, il n'a pas les mêmes bases pour parler. Si je veux parler sur la trilogie Star Wars, et que moi, qui suis un petit peu vieux, je parle avec les épisodes 4, 5, 6, les vieux, voyez. Et que je dis, mais Star Wars, c'est génial, regarde, 4, 5, 6, c'est solennel, etc. Amen. Et que Dimitri, non, Maxime, qui est en face de moi, qui est jeune, et qui n'a vu que les épisodes 1, 2, 3, me dit, mais Star Wars, c'est nul. Il y a un monsieur qui s'appelle Jar Jar Binks, on comprend pas ce qu'il dit. Et il me dit, mais non, c'est nul. Quel est le problème? On n'a pas la même base. Je me base sur une chose, il se base sur une autre. On peut même pas discuter, on n'a pas la même base. Nous avons le même problème avec nos amis catholiques. On se base sur la Bible, eux se basent sur la Bible et sur d'autres choses, leur tradition. Que faire? Quelque chose de vraiment important à faire. Quand vous commencez la discussion avec un ami catholique, première chose à faire, moi je mets au clair la base. Mon ami Dimitri, est-ce que tu es d'accord que ce qui fait autorité pour moi dans ma vie, c'est la parole de Dieu, on la lit tous les jours, on prie sur la parole de Dieu, tu es d'accord que c'est ça le plus important, que c'est ça qui fait autorité? Et là Dimitri dira, oui, pas de problème. Et donc quand je discuterai avec Dimitri, et qu'il voudra me dire, non mais la tradition, je pourrais dire, ah, on s'est mis d'accord. On n'a pas eu de la parole de Dieu au début. Quand je vais discuter avec mon ami Dimitri, si j'ai commencé par mettre au clair les bases, toute la discussion sera différente. Oui, parce que Dimitri est catholique, hein, pour ceux qui ne savent pas. Nathanaël n'est pas content, il voulait aussi être catholique. Si tu le dis. Donc, mettons-nous d'accord sur la base, c'est quelque chose de crucial. Si vous n'avez pas la même base, vous allez patauger pendant des heures, discuter, ça ne mènera à rien. Commencez par mettre d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? L'autorité, c'est la parole de Dieu. Ils vous diront quasiment tout le temps, oui, pas de problème. Et donc ensuite, quand vous parlerez avec eux et que vous citerez la parole, tout ce que vous direz aura un poids différent. D'accord? Vous comprenez ça? C'est clair? Pourquoi est-ce que tu rigoles, Laurent, encore? Il rigole tout le temps. Et donc, il faut vraiment commencer par remettre les Écritures à leur place, par les remettre au centre. J'ai affiché quelques versets derrière moi. Est-ce que quelqu'un peut me prendre Matthieu 15, 3, s'il vous plaît? C'est un verset que j'aime beaucoup. Le plus rapide a le droit de le lire. Ou dans une autre traduction, vous annulez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Ah, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le commandement de Dieu d'un côté et la tradition moins importante de l'autre. Voilà ce que dit Jésus sur la tradition des pharisiens. Ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. J'arrive souvent à citer ce verset quand je discute avec des amis catholiques et qui me parlent de tradition. Je leur dis, oui, mais regarde, faisons attention. Jésus lui-même dit aux pharisiens, vous abandonnez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Là, ils me disent, ah oui, tu as raison, Tim. Et je peux vraiment citer les Écritures et leur parler avec la Bible. Ok ? Et bien sûr, un verset important sur la parole, 2 Timothée 3,16, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour... Voilà, c'est un petit peu flou. Enseigner, convaincre et instruire dans la justice. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Vous savez, des fois, moi, je parle beaucoup et je parle pas forcément bien. Citons la parole, utilisons la parole. Peut-être que vous pensez ne pas être un bon orateur. Peut-être que vous pensez que vous ne savez pas parler. C'est pas grave. Moi non plus, et je suis prof. Vous n'avez pas besoin de savoir bien parler. Vous avez besoin de faire confiance au Saint-Esprit et de citer la parole de Dieu. C'est Dieu qui fera les faits. Dieu agira à travers vous, il veut vous utiliser pour sa gloire. C'est ça l'évangélisation. Si vous ne vous sentez pas capable, tant mieux, parce que lui vous utilisera encore davantage. Donc, les sacrements, pour aller un peu rapidement. Alors, les sacrements, c'est quoi ? Les sacrements, pour eux, ce sont des choses qui se font dans l'Église. Il y en a 7. On ne peut en pratiquer que 6, parce qu'il y a le mariage comme sacrement, et il y a le fait de devenir prêtre. Quand on est prêtre, on ne se marie pas. Quand on est marié, ben on n'est pas prêtre. Donc on ne peut faire que 6 sacrements sur 7 en tant que catholique. Les sacrements pour eux sont comment ? Eh bien, ils participent au salut. Si vous parlez avec Maxime, qui est un grand catholique également, et que vous lui dites « Est-ce qu'on est sauvé par la foi ?» Il va vous dire « Oui, pas de problème. » Mais si je creuse un peu et que je dis « Mais les sacrements, est-ce qu'ils participent au salut ? Ah oui, aussi ! Une fois, j'avais invité 2 amis catholiques dans mon église à Montreuil, et je prêchais, je faisais un message ce dimanche-là, et c'était vraiment un message d'évangélisation. Et j'ai vraiment pensé à eux pendant que je prêchais, j'ai prêché l'évangile sur Jean 15, c'était radical, etc. Ils sont ressortis en me disant, « Ah, c'était très bien, j'ai bien aimé, tu es d'accord ?»« Oui, je suis tout à fait d'accord. » Je passe l'après-midi avec eux, puis je pose une question un moment. « T'es d'accord avec ce qu'on a dit ce matin ?»« Oui, tout à fait d'accord. » On est sauvé par la foi. Oui. Les sacrements, est-ce qu'ils participent au salut ? Ah oui, aussi. Donc, attention, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en eux. Ce sera compliqué, ça se fera sur le long terme. Il ne faut pas se lasser de prêcher la parole de Dieu, de rappeler les vérités de la parole. Regardez ce qu'ils nous disent sur le baptême. Ils disent, le Seigneur lui-même... Le Seigneur lui-même affirme que le baptême est nécessaire au salut. Bon, bien évidemment, c'est faux. La scène. Ils disent beaucoup de choses sur la scène. J'ai écrit des choses, mais on va pas en parler. Ils croient en ce qu'on appelle la transsubstantiation. C'est-à-dire que le pain et le vin deviennent véritablement, se transforment en corps et en sang de Christ. Donc, ils sont cannibales. Pour une petite image, il y avait une fois un prêtre qui s'est converti ensuite, qui était au Canada. Et il a pris la scène avec un groupe de prêtres et il devait vite aller sur son cheval, il devait vite aller voyager pour aller dans une autre réunion. Donc il avait avec lui son hostie dans sa poche. Et il était en train de se chevaucher, il était sur son chariot, et il réfléchissait, il se disait, j'ai Jésus dans ma poche. Et puis là, le chariot a une embardée, a un problème, et il tombe dans la neige et il perd son hostie, son bout de pain dans la neige. Et là, il se dit, J'ai perdu Jésus dans la neige. Et ça l'a fait réfléchir. Mais attention, pour un catholique, s'il n'y a pas eu le moment de la scène qui a été fait par un prêtre, ce n'est pas une messe. Une messe, il faut qu'il y ait un prêtre qui partage la scène. Donc quand vous invitez un catholique dans votre église, vous avez un culte, et qu'il n'a pas vu de sainte scène, il va vous poser la question, mais il n'y a pas eu de messe ? D'accord ? C'est à prendre en compte. Alors, ils disent beaucoup de choses sur la scène, on ne va pas revenir dessus, mais toutes ces choses-là sont des sacrements qui participent au salut dans leur tête. Ça vous fait avancer pour le salut. Les sacrements sont participants au salut. En vrac, on pourrait dire encore plein de choses sur l'Église catholique. Qu'est-ce qu'ils croient ? Il croit que c'est l'Église qui peut pardonner les péchés. Il croit que le pape est le vicaire du Christ. Ça veut dire quoi, vicaire ? Alors, il y a un groupe qui connaît bien, puis il y a l'autre groupe qui dort. On peut peut-être avoir un juste milieu ? Ah non, si ça va, tu dors pas, toi. Le pape est le vicaire de Christ, c'est-à-dire que pour eux, le pape est le représentant de Christ sur terre. Le pape a une autorité presque semblable à celle de Jésus, en plus âgé. Et en italien ou en latin. Il croit que le fait d'être sûr de son salut, c'est un péché, qui s'appelle le péché de présomption. Il croit qu'on peut prier des saints comme intermédiaire pour prier directement Dieu. Il croit que Marie est le cou de l'Église, si Jésus est la tête, que Marie nous permet d'accéder jusqu'au Père. Il croit que Marie est vierge depuis sa naissance, qu'elle est sauvée depuis sa naissance, qu'elle est une source éternelle de sainteté. Il croit qu'il existe un endroit où on peut essayer de se purifier après la mort qui s'appelle le purgatoire. Voilà un ensemble de choses. Attention, tous nos amis catholiques ne croient pas ça. Ça, c'est ce que vous trouvez dans le catéchisme. Pour la plupart, ils ont chacun leur propre version, leur propre interprétation du catéchisme. Il est bon de connaître ça juste pour savoir comment leur parler, juste savoir un petit peu ce qu'ils ont comme arrière-plan. Mais il faut toujours poser des questions ouvertes parce que vous ne savez pas ce que la personne pense en face de vous. Ne vous dites pas « Oh, les catholiques, ils croient forcément en ça ». Parce que posez-lui la question, ils auront tous un point de vue assez différent. Ne serait-ce que sur la question de Marie. Certains vont jusqu'à l'adorer, d'autres vont la prier pour prier jusqu'à Dieu, d'autres ne vont pas être tout à fait sûrs de ce qu'ils croient sur ce sujet. Vous avez beaucoup de points de vue différents. Ce qui est important, c'est de voir le discours avec un catholique, tiens, tu fais encore le catholique, comme une course de haies. Quand vous faites une course de haies, votre but n'est pas d'arriver devant la haie, de sauter 5 mètres au-dessus, puis de revenir et de ressauter au-dessus, de prendre son temps. Non, le but est de sauter gracieusement et rapidement la haie telle une biche pour arriver à l'arrivée. Le but, c'est l'arrivée. La haie, c'est un obstacle qu'il faut vite sauter. C'est la même chose pour l'annonce de l'Évangile. Le but, c'est d'annoncer Christ. L'arrivée, c'est la croix. Toutes les haies qui sont des obstacles, il ne faut pas s'arrêter dessus pour bien casser le catholique, casser son obstacle. Non, il faut le surmonter rapidement et toujours rester autour de la croix. Quand vous avez une discussion d'une heure autour de choses qui ne servent à rien, eh bien, vous avez vraiment loupé le coche. Vous êtes vraiment gouré dans un sens. Le but, c'est d'arriver au bout de la course et de prêcher Christ et Christ crucifié. Question de Clément avant qu'on passe à la suite. Justement, parce que, comme je l'ai lu dans le catéchisme de l'Église catholique, il n'adore pas Marie, il n'adore que Dieu. Mais Marie est un intermédiaire qui nous mène jusqu'à Dieu. C'est-à-dire que toi, tu es Dieu, tu es très occupé. Et si je veux te parler, j'ai passé par... c'est quoi ton prénom ? Kevin. Je dirais, Kevin, tu peux dire à Clément qu'est-ce qu'il est très occupé, qu'il faut qu'il m'aide pour mon examen de demain. Ah, et puis, c'est quoi ton prénom, s'il te plaît ? Gisèle. Gisèle, s'il te plaît, tu peux dire à Clément que j'aurais besoin d'argent aussi. Ok ? Il le voit comme un intermédiaire pour accéder jusqu'à Dieu. Comment est-ce qu'on peut répondre là-dessus ? Qui est l'intermédiaire pour aller à Dieu ? C'est quel verset ? 1 Timothée 2,5 ? C'est quoi 1 Timothée 2,5 ? Car il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Véridique, j'ai des amis séminaristes qui m'ont dit, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, le prêtre. 1 Timothée 2,5 ? Car il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ok ? On passe à la partie pratique. Quelle démarche utiliser ? Finalement, on a vu rapidement quelques petits dogmes. La dernière fois, j'avais 2 soirées, j'en avais fait une juste sur les dogmes. Et c'est pas forcément le plus intéressant à faire, vu qu'ils croient tous des choses différentes. Il faut poser des questions ouvertes pour voir ce qu'ils croient. Mais concrètement, comment est-ce que moi je fais ? Je croise des catholiques peut-être tous les jours. J'ai des amis catholiques. Qu'est-ce que je peux faire avec eux ? Je ne sais pas comment leur annoncer l'évangile. Quand je croise quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, je peux lui proposer un évangile. Eux, ils vont me dire « Non, mais j'ai déjà lu, je suis chrétien. Qu'est-ce que je réponds ? Qu'est-ce que je peux faire ?» On est souvent terrorisés. Eh bien, j'aimerais vous proposer plusieurs choses qu'on peut faire et j'aimerais vraiment, si vous pouvez retenir ça, prendre quelques notes, je pense que c'est vraiment important. Alors, premièrement, il y a quelque chose qui vraiment... vraiment extraordinaire, ça s'appelle la route romaine. Alors en anglais, il y a un jeu de mots parce que l'épître aux Romains se dit Romans, et donc ça fait The Romans Road, la route de l'épître aux Romains, ce qui veut rien dire quand on le traduit comme ça. La route romaine, quel est le but de la route romaine? Le principe de la route romaine, c'est de pouvoir, en 8 leçons, expliquer simplement l'évangile avec l'épître aux Romains. C'est simple, mon ami Dimitri en face de moi qui est catholique, je ne sais pas toujours comment je dois lui parler. On se voit régulièrement, on est potes, il me dit qu'il aime lire la Bible, il me dit qu'il aimerait se renseigner, qu'il se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, plutôt que d'avoir des débats souvent qui mènent à rien, je vais dire à mon ami Dimitri, hey « Hé Dimitri, viens, on se prend un café et on lit la Bible ensemble. Et on prend Romains 1 ensemble, c'est énorme. Vraiment, toutes tes questions que tu peux avoir sur l'Évangile, eh bien, c'est y répond rapidement. Viens, on se prend un café ensemble et on va étudier Romains 1. » Personnellement, j'ai fait ça avec plusieurs personnes. Et les gens refusent rarement un café. On veut très souvent inviter des gens dans son église, on les invite à un culte, où ils peuvent pas participer, s'ils sont pas d'accord, ils peuvent pas le dire, où ils comprennent pas, où ils sont pas chez eux, où ils ont passé de bons moments, mais sans plus, et où c'est pas toujours adapté. Alors qu'on peut très simplement lui dire, viens, on se prend un café. Les gens refusent rarement un café, et je vous promets, ça fait des années que j'ai un budget café, juste pour offrir des cafés aux gens. Ou des thés, ou n'importe quoi, on s'en fiche, mais proposez-leur de boire un verre, je sais pas, de passer du temps avec eux dans un endroit public. C'est convivial, c'est simple, tout le monde a envie de dire oui, et là, vous avez une opportunité de vous asseoir, d'ouvrir la Bible et de laisser la parole changer les cœurs. Donc, la route romaine. Une petite histoire. Mon grand-père paternel, que je n'ai pas vu depuis quelque temps, est un homme très instruit, général 4 étoiles, polytechnicien, c'est vraiment une tête. Et ce gars-là, il connaît énormément de choses, notamment en théologie, il écrit des bouquins, il est très catholique, il n'est pas encore au Seigneur malheureusement. Il écrit des bouquins, il connaît beaucoup de choses, il m'a dit qu'il se renseignait sur les différents exodes et les liens avec des trucs historiques de l'époque, enfin, il fait des choses incroyables. Et une fois, alors que je le visitais, il m'a dit « J'ai jamais compris l'Épître aux Romains. » Vous imaginez, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire à utiliser cette épître, qui est souvent une énigme pour eux, parce qu'elle prêche l'Évangile, cette épître, et l'utiliser pour passer du temps avec eux et leur annoncer Christ. Comment le proposer? Très simplement. Viens, on va se prendre un café. Viens, je t'invite chez moi. Ou si la personne vous invite chez elle. Privilégiez les petits groupes. Si quelqu'un vous dit « j'amène 10 amis », vous n'allez pas vous en sortir seul avec 10. Moi, je n'ai pas jamais 5. S'il y a plus que 5, je fais 2 groupes. Je fais ça une prochaine fois où j'amène un ami à moi. Je ne dépasse jamais 5. Vraiment, en convivialité, en petit comité, les gens se livreront beaucoup plus, poseront leurs questions et ça avancera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Comment le préparer? Bien, vous pouvez simplement dire aux gens, écoute, lis le chapitre, on va faire chapitre 1 une fois, chapitre 2 après, puis chapitre 3, puis chapitre... Puis le... C'est trop fort. Dites-leur juste, lis le chapitre, et moi je vais arriver avec un petit document. Moi ce que je fais, c'est que je prends une feuille, je recopie le passage sur cette feuille de Romains 1, et je le découpe, on va dire, en 2-3 parties. À chaque fois, je mets un titre à la partie, je mets en gras les mots importants, j'explique les mots difficiles, avec un vocabulaire peut-être en bas, et je pose quelques questions à la fin de chaque petite partie. Et ça tient, tout tient sur une page, pour que le texte soit très simple à comprendre, à lire, il y a un titre, c'est simple, on voit les mots importants, on voit les mots gras, ça ne paraît pas compliqué, et tout est expliqué sur cette feuille. Et je vais donner cette feuille à chacune des personnes qui vont venir quand on va faire la lecture. Ou alors ce que je fais souvent, parce que donner une feuille c'est très scolaire, les gens ne vont pas apprécier, ça ne se fait pas trop avec des amis, je le mets sur ma tablette et on regarde ensemble sur ma tablette ou sur votre téléphone. L'idée c'est que ça ne paraît pas du tout forcément scolaire, juste on a clarifié un peu le chapitre qui peut parfois être très compliqué pour eux, on a fait quelque chose de simple, de clair, il y a juste à lire et puis on se pose les questions ensemble et on en parle ensemble. Ça me prend 10 minutes à préparer, et même avec plusieurs groupes, ce que je faisais, c'est que j'envoyais après par mail la feuille. Et une fois, il y en a une qui m'a répondu « Waouh, le titre que tu avais mis, c'est une grâce imméritée. Ça m'a beaucoup travaillé parce que je ne m'étais jamais rendu compte de ça, qu'on ne méritait pas la grâce. » Comme quoi. Donc, ah oui, j'ai oublié ma souris, pardon. Hop, elle est là. Donc, comment le préparer? Ça peut vraiment se faire en 10 minutes si vous connaissez un peu le texte. Où se voir? Comme on l'a dit, dans un café, dans un endroit public de préférence, ou alors chez quelqu'un, faisons les choses très simplement. Quel est le but? Le but, c'est vraiment de leur prêcher l'évangile. Vous ne cherchez pas à en faire des protestants, vous cherchez à en faire des chrétiens. Une fois, j'ai une amie comme ça à qui je faisais un groupe, elle s'est convertie. Elle était catholique, elle allait dans l'église catholique. Moi, je voulais lui faire comprendre que ce serait bien qu'elle vienne dans une église protestante, dans une église proche de chez elle. Et en plus, il y avait une très bonne église qui avait ouverte à Versailles, juste à côté de chez elle. Alors je me suis dit, comment je fais? Comment je vais faire maintenant qu'elle est convertie, maintenant qu'elle a accepté Christ, pour l'aider à quitter les milieux catholiques? Et en fait, je n'ai pas du tout cherché à lui faire quitter les milieux catholiques. Je lui ai juste fait des études sur l'Église. Je lui ai parlé de ce que c'était vraiment que l'Église. On a pris la Bible, on a ouvert, on a regardé ce que disait la Bible sur l'Église. Et d'elle-même, elle a cherché à aller ailleurs. Ne cherchez pas à convaincre les gens. Ne cherchez pas à les convertir. Laissez ça au Saint-Esprit, laissez ça à Dieu. Laissez la parole les convaincre. Prêchez la parole. S'il y a un point de désaccord, ne dites pas « Non, tu dois être d'accord avec moi, tais-toi, écoute-moi. » S'il y a un point de désaccord, ouvrez le texte et dites « Qu'est-ce que dit la parole là-dessus ? Regardons ce que le texte dit. » L'autorité, ce n'est pas vous. L'autorité, c'est la parole. Et ça, ça fera toute la différence. Il faut qu'il soit convaincu par la parole et non pas par vous, ou par vos beaux arguments, votre belle manière de parler. C'est clair ? Pendant combien de temps ? Alors, on peut faire ça très courtement, cette étude. Après, ça peut se prolonger, parce que les gens peuvent rester discuter après. Ça peut durer des heures et des heures. Ça m'est arrivé d'en commencer à 7h et terminer à minuit, parce que les gens étaient motivés. 7h le soir, hein, pas le matin. Je vous rassure quand même. Mais l'idée, c'est de le faire en 8 fois, un chapitre à chaque fois. OK ? Pourquoi ? Ça marche pas. Pourquoi en 8 fois ? Parce que vraiment, Romains, ça prend le temps de vous expliquer pourquoi vous avez besoin de l'évangile. Chapitre 1, ah là là, on est coupable. Chapitre 2, pareil. Et puis, fur et à mesure, on présente la solution qui se trouve en Jésus-Christ. Et le chapitre 8, c'est l'apothéose, c'est la cerise sur le gâteau. Et il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, c'est génial. Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 18, car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Romains 8, quel chapitre encourageant. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et prendre le temps, chapitre par chapitre, d'expliquer la parole pour enfin arriver au chapitre 8. Vraiment, ça ouvre les yeux sur ce que c'est que l'évangile. Je vous recommande la route romaine. Et il n'y a toujours pas de signal. Bon, on va improviser, c'est pas grave. Donc, la route romaine, c'est vraiment une méthode qui peut être extraordinaire. Prenez le temps avec vos amis catholiques de faire des groupes. On veut inviter les gens dans des églises, ils veulent pas venir. Et le plus simple, quand on lui propose de faire un petit groupe, souvent les gens disent oui. Et on a une opportunité incroyable. Prenez le temps avec vos amis catholiques. Prenez le temps de leur expliquer la parole. Prenez le temps de faire des groupes avec eux. OK ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant qu'on continue ? Tant de questions, waouh ! Qui a déjà eu l'expérience de faire des petits groupes avec des catholiques ? Levez la main. Des petits groupes avec des catholiques. Oui, ok. Comment ça s'est passé ? D'accord. Alors la route romaine, c'est une première manière de faire. Il y a d'autres méthodes, d'autres choses qu'on peut utiliser. Notamment, on peut faire le survol d'un évangile. Moi, j'avais fait ce qu'on appelle des groupes découvertes de la Bible. On avait survolé l'évangile de Jean avec les gens qui étaient là. C'était vraiment aussi quelque chose d'unique pour annoncer l'évangile, annoncer Christ. Une autre manière aussi, ça peut être de faire ce qu'on appelle les sept histoires d'espérance. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Laurent, des sept histoires d'espérance ? Qu'est-ce que tu as fait comme série, Laurent ? Les sept signes de Jean, c'est quoi les sept signes de Jean ? Dans l'évangile de Jean, en fait, Jésus est décrit comme étant fils de Dieu. Et on retrouve en particulier sept miracles bien précis qui nous révèlent qui est Jésus-Christ, quoi. Merci bien. Donc, il existe énormément de méthodes comme ça qu'on peut utiliser. Si vous voulez venir me voir à la fin, moi j'ai tous les documents. Laissez-moi votre adresse mail et je vous les envoie. J'ai déjà tous les documents, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Niveau de préparation, ça peut être très rapide. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse proposer des groupes adaptés aux amis qui sont autour de nous. Oh, ça remarche ! J'y croyais plus. Tu peux faire F5, s'il te plaît ? C'est pas grave. Une autre possibilité aussi, c'est de faire des études inductives. C'est quoi une étude inductive ? Allez, il reste quelques minutes, après on passe à la pratique. C'est quoi une étude inductive ? Première proposition, oui. Tu nous redis ça un peu plus fort ? Tu peux pas développer un peu plus ? D'accord. Monsieur. Super. Le principe d'une étude inductive, c'est que vous préparez l'étude avec la personne. L'idée, c'est que vous allez prendre le texte ensemble et préparer l'étude ensemble pour en arriver à la même conclusion, c'est-à-dire ce que le texte dit. Et pour que quelqu'un retienne quelque chose et se l'applique, ça peut aussi être un moyen magique. Par exemple, plutôt que simplement expliquer Romains 1 et la personne écoute et vous pose des questions, vous allez prendre une partie du texte et dire, écoute, on va voir ensemble ce que le texte est en train de dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Cette expression-là, tu penses qu'elle veut dire quoi ? Et ensemble, vous préparez l'étude sur une petite partie du texte. Ça peut être un moyen aussi vraiment d'interpeller les gens. Alors oui, vous avez affiché derrière moi pas mal de choses sur Romains. Vraiment, Romains 1 à 8, ça nous montre que c'est un découpage parfait pour annoncer l'évangile. On ne va pas rester dessus. Également, il faut utiliser des images quand vous parlez avec des catholiques ou même très généralement. Utilisez des images. Quand vous parlez une heure avec quelqu'un, la personne peut oublier votre discours, peut oublier ce que vous avez dit, mais la personne retiendra les images que vous avez utilisées. Quand ce soir on se quittera, vous aurez oublié tout ce que je vous ai dit. Vous allez vous souvenir d'une chose. Ah Tim, il était drôle en fait. Vous allez retenir que je vous ai fait rire, ou retenir peut-être une image que j'ai utilisée. Et vous allez la retenir. Les gens, c'est pareil. Ils retiennent pas les longs discours. Ils retiennent peut-être des fois des images simples. Plutôt que de longs discours, on ouvre la parole et on peut donner une image simple. Romains 3, 23, tu pourrais nous le lire, Laurent, pardon, j'allais t'appeler Romain du coup. Merci, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'on peut trouver une image simple pour expliquer qu'on est pécheur et qu'on est mal barré devant Dieu ? Moi, j'ai une image, enfin, en fait, j'en ai plein. Des fois, j'utilise l'image du verre d'eau. Donc ça, c'est un verre d'eau. Et je leur dis, écoute, c'est simple. Imaginons que je mette un poison violent dans ce verre d'eau. Je mets du cyanure. Je te l'offre. Est-ce que tu vas le boire ? Non. Dimitri ne répond pas. Si tu sais, tu ne le bois pas. C'est la même chose. Sinon, on a un petit peu de mal en nous. Ça se mélange, c'est partout, c'est en nous. Est-ce que Dieu peut accepter ça si on arrive devant lui avec même un tout petit peu de choses mauvaises, même un tout petit peu de mal ? Est-ce que Dieu peut l'accepter ? Non. Dieu rejette tout ce qui est mauvais. Il ne prend pas le billet sous la table. Est-ce que vous avez d'autres images pour expliquer qu'on est mauvais devant Dieu et qu'il ne nous accepte pas naturellement ? Est-ce que vous avez d'autres images ici dans cette salle ? Est-ce qu'il y a une image auquel vous pensez qui pourrait expliquer ça simplement ? Oui, Laurent, Clément ? On peut écouter s'il vous plaît ? Ah, très bonne image. Très bonne image. Si vous faites arrêter parce que vous avez grillé un feu rouge, vous ne pouvez pas dire Non, mais j'ai travaillé avec une ONG en Afrique. J'ai aidé des gens. J'ai fait plein de choses bien. Mais vous avez grillé le feu, monsieur. Mais je suis quelqu'un de bien. Mais monsieur, vous avez grillé le feu. Vous devez payer, c'est tout. Une image très simple pour expliquer que on est condamné, on a quelque chose à payer. Ok, image suivante. Est-ce que quelqu'un peut me lire Romains chapitre 2, le verset 1? Merci. On est inexcusable. Une image qu'on peut prendre aussi pour parler du fait qu'on est inexcusable devant Dieu, c'est l'image du juge. Vous savez, souvent les gens s'imaginent Dieu comme un vieux gaga qui porte des couches pampers et qui a une petite canne comme ça, comme quelqu'un qui est sur un nuage lointain. Ils s'imaginent mal que Dieu est un juge qui va nous juger. Et moi, je le reprends un petit peu comme l'image qu'a fait Clément tout à l'heure. Je leur dis, imaginons que tu sois devant le juge et que tu enfreins la loi. Qu'est-ce que tu lui diras? Comment tu vas échapper à la condamnation? La loi, c'est que tu sois condamné. Ça peut être une image à utiliser pour pouvoir leur parler également de l'évangile. Dernière image, l'image du roi. Est-ce que quelqu'un peut me lire Romains 8, 1, s'il vous plaît? Quelqu'un ou quelqu'une, je suis ouvert sur la question. Merci quelqu'une. Donc, Romains 8, 1, plus aucune condamnation en Jésus-Christ. Il y a une image qui me travaille particulièrement. Nous sommes dans un royaume, et dans ce royaume, il y a un roi. Et ce roi, il est juste, il est bon. Et ce roi, il a fait une loi qui est juste, qui est bonne. Et notamment dit, si quelqu'un vole dans les caisses de l'État, cette personne sera punie de mort par coup de bâton. Et un jour, il se rend compte qu'il y a de l'argent qui sort, qu'il y a de l'argent qui est perdu, que quelqu'un lui vole de l'argent. Oh, vous êtes relou. Qui était pas là hier, levez la main. Ah, Eric me les a piqués. Bon, bah, je continue alors, vous étiez pas là hier. Et ce roi, du coup, découvre qu'on lui a volé de l'argent. Et il se dit, ah, il faut que je trouve cette personne pour la mettre à mort. Et il se rend compte que c'est sa propre mère. Que fait-il? Justice, il doit appliquer la sentence. Amour, c'est sa propre mère, il doit faire quelque chose quand même. Que fait-il? Le jour de la condamnation arrive, la mère est donc amenée au centre de la place publique, là où va se dérouler la bastonnade. Elle est attachée au poteau, le bourreau arrive avec son gros bâton. Le bourreau lève le bâton, et là le roi dit « Attends !» Je fais bien les gestes royaux. « Attends !» Le roi enlève son manteau royal, il enlève sa couronne, il descend et il met ses bras autour de sa maman. Et là, il dit, applique la sentence bourreau. Et le bourreau frappe. À la fin, la mère s'en sort, un petit peu bousculée mais vivante, et le roi en est resté mort. Que se passe-t-il? La justice a été accomplie, la sentence a été accomplie. Mais l'amour a aussi été accompli. Et le roi a offert une solution à cette personne qui avait fauté. Voilà une image simple qui peut nous permettre d'expliquer l'évangile. Utilisons des images simples. C'est de loin ce qu'il y a de plus clair pour vraiment parler de l'évangile, notamment avec nos amis catholiques qui voient souvent la Bible comme quelque chose d'intellectuel, de lointain, d'incompréhensible. C'est du chinois pour eux, pas pour vous. Et donc mon premier point, c'était proposer des études adaptées. On a parlé des sept histoires d'espérance, on a parlé des sept signes de Jean, on a parlé beaucoup de la route romaine, de faire des études un à un, de faire des études inductives, ou même lancer des groupes découvertes dans votre église, où une fois par mois, une fois toutes les deux semaines, il y a un moment où les gens peuvent venir et vous allez leur faire découvrir la foi chrétienne avec plusieurs thèmes. Ça peut aussi très bien marcher. En deuxième main, on a parlé du fait d'utiliser des images en lien avec des versets de la parole. Et en troisièmement, j'aimerais vous parler de comment est-ce que vous devez agir dans la prière. Ne cessez pas de prier. C'est Dieu qui agira, c'est Dieu qui fera effet, ce n'est pas vous. Ne cessez pas de prier. Également, des fois, je fais souvent des évangélisations, j'en fais toutes les semaines, le mardi soir par exemple, Et des fois, quelqu'un me dit, ah, oh, j'ai eu une super conversation, ça s'est super bien passé et tout. Et je lui dis, ah, super, tu as les coordonnées de la personne pour qu'on puisse continuer? Ah non. Ce qui est très utile, c'est de faire voir les choses sur le long terme. Ce n'est pas parce que j'ai parlé une fois de l'évangile avec Dimitri que demain il vient à l'église et il prêche. Il faut voir sur le long terme. Ne le lâchez pas, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Continuez à lui annoncer l'évangile, continuez à lui voir, à le voir et à parler de la parole ensemble. Prenez les coordonnées, relancez régulièrement. Ne harcelez pas les personnes, mais de temps en temps, prenez des nouvelles. Comment ça va? Viens, on va manger ensemble, on va se voir. Oui, ayez un budget aussi repas, ça peut être très bien, offrir des repas aux gens. N'hésitez pas à faire ce genre d'initiative pour ne pas lâcher les gens. Également, faire des réunions adaptées. Arrêtons de dire, ah là là, j'ai quelqu'un qui s'intéresse à l'évangile, bon, bah, je vais l'inviter au culte. Puis il vient au culte, il s'est levé tôt un dimanche matin, il ne peut pas placer le moindre mot, il doit juste s'asseoir et écouter. On lui parle dans un vocabulaire qu'il ne comprend pas. Il chante des chants, mais il ne comprend pas pourquoi il chante ça, c'est joli, mais c'est tout. Alors qu'on pourrait les inviter à une réunion qui serait adaptée pour eux, comme un petit groupe découverte, comme une route romaine qu'on ferait ensemble dans un café, où là on aura un impact beaucoup plus grand. Et n'oublions pas de proposer d'ouvrir la Bible avec eux et de répondre à leurs questions. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le mot grec, qui est traduit souvent par prédication, c'est le mot kérousso, qui veut dire proclamer. C'est un petit peu comme celui qui, dans les temps anciens, donc Clément doit connaître ça, avait un tambour, vous savez, il avait une petite feuille, et il faisait « Oyez, oyez !» et il lisait sa petite feuille. Il proclamait, il parlait sur la place publique, tout le monde devait l'écouter, c'était important. Nous, c'est la même chose, on doit proclamer, on ne doit pas lâcher les gens. Mais ce qui fera effet, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui fera effet. Ok ? On fait un petit résumé rapide. Partie théorique, on a surtout parlé du salut des catholiques, du problème du poids de la tradition. On a parlé de quelques autres dogmes, on a surtout dit qu'ils pensaient tous différemment, qu'il fallait leur poser des questions ouvertes pour comprendre ce qu'ils pensent. Deuxième partie, donc cette partie, on a parlé de faire quelque chose comme la route romaine, de faire des études inductives, de faire du 1 à 1. Je vous ai dit que j'avais plein de documents qui pourraient vous intéresser, que je peux vous envoyer par mail. Et on a parlé de vraiment utiliser la prière, utiliser les coordonnées, relancer les gens et bien sûr d'ouvrir la parole avec eux. Et pour terminer, pour cette... Ah, je suis en avance, tu m'avais dit 9h30, il est 9h. Donc on a du temps pour la dernière partie. Pour terminer, on va passer à quelque chose d'un peu plus pratique. Alors, on a en gros parlé des catholiques. Vous savez, quand je suis devant mes élèves et que je parle, donc je suis avec mes feutres ou mes craies, où j'ai toujours des craies dans la poche. S'il y en a qui sont pas ça, je peux les lancer, je suis très bon en lancer de craies. Donc, quand vous êtes au tableau et que vous parlez avec vos élèves, très souvent, ils vous comprennent bien. Mais tant qu'ils n'ont pas pris leur stylo et qu'ils n'ont pas fait les exercices, ils ne savent rien faire. Ils ont l'impression de savoir. Tant qu'ils ne sont pas passés à la pratique, ils ne savent pas faire. Mais si, si, monsieur, je sais, ouais, j'ai cru compris. Et au contrôle 5, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, monsieur, je pensais avoir compris. T'as fait les exercices, tu les as relus? Bah non, pourquoi, monsieur? Du coup, maintenant, je leur remets une feuille avec « Retravaillez vos exercices, faites d'autres exercices. » Ça doit vous prendre au moins une heure. Ah bon, faut faire ça, monsieur? Nous devons être de même des gens pratiques. Et je vous propose de passer à la pratique. Mais on est un petit peu nombreux, donc on va faire... Ah ça va, il y en a qui savent lire. Deux. On va faire deux groupes. Un groupe avec notre cher Nathanaël, catholique de formation. D'accord, donc Nathanaël, si tu veux bien venir, s'il te plaît. Donc Nathanaël est un catholique convaincu mais très ouvert, très gentil. Il pense que l'œcuménisme c'est très bien, qu'on a tous une foi qui est différente et qu'ensemble on peut vraiment apprendre les uns des autres et que voilà, il est très content dans son église, il est très content de venir partager avec les protestants même s'il trouve qu'ils sont pas tout à fait dans la vérité. Et voilà, il est très heureux d'être là ce soir, n'est-ce pas Nathanaël?
Bien sûr.
Voilà. Et Nathanaël va être avec un groupe qui va essayer de le convaincre. Enfin, de le convaincre, qui va lui annoncer, essayer de lui annoncer l'évangile. Quand vous êtes devant quelqu'un comme ça, peut-être que vous êtes dans la rue en train de proposer un évangile. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous offrir un évangile? Ah mais j'ai déjà lu, je connais très bien. Ah vous êtes chrétien? Oui, je suis catholique. Et là souvent on est là, on ne sait pas quoi dire. Bonne journée monsieur. C'est ce qu'on fait souvent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut dire à Nathanaël? Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Alors attention à ceux qui vont un peu vite en besogne. Monsieur, on peut prendre un café et faire la route romaine. C'est un petit peu rapide quand même, hein? Mais comment est-ce que je peux lui parler? Alors avant qu'on fasse la vraie mise en pratique, est-ce que quelqu'un aurait une idée? Comment est-ce que vous feriez? Vous dites oui, je suis catholique, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lui dis? Alors levez la main s'il vous plaît, on va être scolaire. David. Et là, il va vous faire un laïus pendant 20 minutes. Là, on est en train de sauter la haie 5 mètres au-dessus. Hein. Ah, moi je fais ça aussi, tu me l'as piqué. Moi, une question que, en fait, j'ai souvent fait un sondage, c'est l'évangile, c'est quoi pour vous? Et je lui dis, bah, écoutez, monsieur, j'ai fait sondage un peu partout, j'ai fait dans des villes différentes, et je pose la question, si vous avez le temps, ce serait quoi l'évangile pour vous? Parce que j'ai entendu plein de réponses. Et donc, très souvent, il va vous dire quelque chose un petit peu à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? L'évangile, c'est quoi pour vous? Puis il me répond, oh mais l'évangile, c'est l'acceptation de l'autre, c'est un message révolutionnaire, c'est l'amour. Qu'est-ce que vous répondez, Clément? Bon, c'est peut-être un petit peu... Ça rabaisse un peu la personne. Oh, mais moi, je connais la Bible. Vas-y. Ouais, mais ça fait un petit peu ton point de vue, mon point de vue, d'accord. Alors lui, mais il a raison. Il a raison. On peut prendre un passage de la Bible et dire, par exemple, moi, ce que je fais des fois, pour être un peu provocateur, mais sans être méchant, je dis, ah oui, j'ai beaucoup entendu cette réponse, mais vous savez, moi, je pose la question. Jésus a dit qu'il est venu apporter la division, qu'il est l'épée. Qu'est-ce que vous en pensez vis-à-vis de l'évangile? Vous m'avez dit que l'évangile, c'est la paix, l'amour. Mais Jésus a dit qu'il est venu apporter la division. Pourquoi? Je mets un peu un grain de sel. Doucement, gentiment, j'y vais en douceur. Et mon but, c'est de vraiment pouvoir parler de l'évangile. Et bien sûr, je fais comme ce qu'a dit Maxime. Est-ce que je peux vous parler de ce que c'est que l'évangile pour moi? D'accord? Ça peut être une façon de faire. Est-ce que quelqu'un a autre chose à proposer? Allez-y, il y a plein de bonnes réponses, sauf celles qui sont fausses. J'aurais fait peur, là. Je suis méchant. Si vous répondez faux, je vais vous humilier. Allez, c'est pas grave. Allez, s'il vous plaît, quelqu'un dans ce groupe-là, quelqu'un lève la main et me propose quelque chose, même si c'est faux, c'est pas grave. Quelque chose à proposer, comment je peux parler avec mon ami catholique ici? Qu'est-ce que je lui dis? Denis, qu'est-ce que tu dirais? Très très bien. Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Par exemple, on peut dire, si tu meurs demain, est-ce que tu sais où tu vas? Si tu meurs ce soir, là, on est à Saint-Maur, là, il y a la rue, machin, tu traverses la rue, tu te fais écraser par Clément, qui revient de la guerre, on en parlait tout à l'heure. Où est-ce que tu vas? Ok, ça peut être une idée. Autre chose? Allez, quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Denis, c'était très très bien. C'est quoi le plus important dans l'évangile? Oui, ça peut être intéressant de poser cette question-là. L'idée, c'est que je vais le laisser parler et je vais rebondir pour présenter l'évangile. Ce que Christ a fait à la croix, pourquoi il l'a fait et la solution. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi dire, quand on est immobilisé, quand on est figé, quand on n'a pas d'idée, quand notre cerveau, on a l'impression qu'il fuit par nos narines? Qu'est-ce qu'on fait? Quand vous ne savez pas quoi faire... J'ai besoin d'attention de tout le monde, juste 2 minutes là. Quand vous ne savez pas quoi faire, donnez votre témoignage. Quand vous ne savez pas quoi faire, donnez votre témoignage. Tout le monde aime entendre une histoire, même celle de la vie de ce Gugus-là, d'accord? Quand vous ne savez pas quoi faire, est-ce que je pourrais raconter un peu ce que moi j'ai vécu? Parce que c'est pour ça que je suis ici dans la rue en train de vous parler. Ouais. Bah en fait, ce qui s'est passé. Quand vous ne savez pas quoi faire, racontez votre témoignage. Et surtout quand vous ne savez pas quoi faire, priez. Ok ? Une dernière question avant qu'on se lance ? Alors, est-ce que les femmes peuvent lever la main, s'il vous plaît, dans la salle ? Les femmes, levez la main ? Les femmes, levez la main ? Donc les femmes, ça fait deux choses à la fois. Donc tu leur demanderas comment elles font pour et prier et discuter, d'accord ? Alors, une dernière question encore. Une dernière question, s'il vous plaît, avant qu'on aille dans les petits groupes. Vous êtes sûr, plus de questions ? Alors voilà ce qu'on va faire. Oui ? En trois ou quatre, en fait, je prends les paragraphes du texte, on va dire. Je regroupe entre eux les idées du texte. Oui, oui. Alors, en fait, je ne leur donne pas la feuille de papier parce que c'est trop scolaire. Je mets sur ma tablette et on le regarde ensemble. L'idée, c'est que ça dépend des gens, mais pour la plupart, c'est compliqué, il faut faire ça de manière simple. Il faut simplifier. Maintenant, quand tu fais une étude inductive, bien sûr que tu fais différemment. Quand tu fais une étude inductive, tu commences avec une feuille blanche. Vous faites l'étude ensemble. Une étude inductive, on fait l'étude ensemble, donc on commence avec la feuille blanche. La route romaine, moi, je simplifie les choses pour leur montrer, écoute, c'est pas parce qu'on lit la Bible que c'est compliqué. Ça peut être aussi très simple. D'accord ? Mais voilà, là, ça prend du temps à avoir l'habitude de faire ce genre de choses. Et je vous assure, moi, en ce moment, je continue à faire un groupe. J'ai deux amis catholiques qui viennent. On se voit assez régulièrement. Et on en est à Romains 5, là. OK ? Et vraiment, elle se pose des questions. Et j'espère que sur le long terme, ça agrandira encore l'Église du Seigneur. Amen. Clément. Parce que quand tu regardes le découpage du livre de Romains, les chapitres 9, 10, 11 sont des questions relatives au salut, comme l'élection et le rôle d'Israël. Ce ne sont pas des choses importantes à faire, parce que nous, on veut les mener à l'Évangile. Donc bien sûr qu'on peut étudier toute la Bible avec eux, mais je ne leur ferai pas le Deutéronome ou le Lévitique. D'accord ? Je vais vraiment prendre le temps de faire les chapitres qui vont les mener à l'Évangile. Des choses simples. Maintenant, si on a terminé Romains 1 à 8, on peut commencer autre chose avec eux. Par exemple, un évangile. D'accord ? Quelque chose de simple qui puisse les mener à Christ. Donc voilà ce qu'on va faire. On va faire deux groupes. Vous êtes le groupe 1. Groupe 1, c'est qui ? C'est ? On le refait, le groupe 1, c'est nous. Le groupe 1, c'est ? Ok, on le refait. Le groupe 1, c'est ? Bien, c'est bien. Bon, lui, là-bas, il s'est... Vous, vous êtes le groupe 2. Le groupe 2, c'est ?
Nous !
Qui a dit vous ? Le groupe 2, c'est... Vous, très bien. Ok, alors le groupe 1, il va y avoir Nathanaël qui va être devant vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des groupes de 2. Et ils vont successivement passer devant Nathanaël. Nathanaël va faire le catholique, donc vous allez être dans votre zone. Et vous allez essayer de discuter avec cette personne-là. D'accord ? Par petit groupe de 2. Pendant qu'il y en a 2 qui passent, pendant qu'il y en a 2 qui passent et que Nathanaël parle avec eux, vous vous mettez bien sûr juste là-bas à côté des autres. Les autres regardent et réfléchissent à comment est-ce que eux ils feraient. Après que les 2 personnes soient passées, vous débriefez quelques minutes et hop, 2 autres personnes reviennent. Ça vous va ? Est-ce que c'est compris ? Donc 2 personnes qui passent avec Nathanaël devant tout le monde, les autres réfléchissent. Et prie pour les 2 personnes qui passent. Nathanaël débriefe rapidement avec vous. Et après, 2 autres personnes passent. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de la réunion. D'accord ? Donc Nathanaël fait le catholique, tu te mets vraiment là-bas avec eux. Et on fait par petits groupes. On ne parle pas trop fort parce qu'on est dans l'autre côté de la salle. Ici, on va faire pareil. Par petits groupes de 2, je vais faire le catho. Tu pourras le faire après quand je serai fatigué. Je vais faire le catho et par petit groupe de 2, on va passer et vous allez essayer de m'évangéliser simplement. Ok ? Est-ce que tout le monde a compris ? Qui n'a pas compris, levez la main. Oui, alors par petit groupe de 2, Nathan, mets-toi vraiment au milieu d'eux. Hein. Au milieu d'eux. Il y en a 2 qui passent avec lui parler. Non, mais debout quand même. Et c'est comme si vous étiez dans la rue et que vous lui proposiez un évangile dans la rue. D'accord ? Et Nathanaël. Il y en a juste 2 qui viennent te voir. Il y en a juste deux qui viennent te voir, d'accord? Qui sont les deux volontaires ici? Deux volontaires. Samuel taille 1, David 2, d'accord? Donc vraiment, vous restez là, proche des autres. Samuel et David parlent à Nat. Ok, on est bon. Ici, deux volontaires. Chut. Alors, pas le droit de m'évangéliser avec la théologie de Calvin. Ok, deux volontaires ici, s'il vous plaît. Monsieur Kimby? Allez, un deuxième volontaire avec Monsieur Kimby. C'est quoi ton nom? Quoi? Fernand, d'accord. Donc Clément est volontaire avec Nathan. Timothée Kimby. Donc Nathan, Timothée et Clément. Ça vous va? On commence?